je ne sais où derrière la cloison, comme si quelqu'un lui pesait dessus de toutes ses forces, comme si on lui tordait le cou, une horloge se mit à râler. Ses râlements d'une longueur extraordinaire furent suivis par une sonnerie toute fine, toute sale, bizarrement rapide, comme si quelqu'un, soudain, venait d'en être propulsé. 2 heures venaient de sonner. Je revins à moi, mais je ne dormais pas. J'étais juste couché dans une semi-inconscience. Dans une pièce étroite, encombrée et basse de plafonds, envahie par une immense armoire de robes et des boîtes de carton, des chiffons et un capharnaüm d'habits, l'obscurité était presque totale. Le bout de chandelle qui brûlait sur une table, au fond, finissait de s'éteindre, se rallumant juste un peu de loin en loin. D'ici à quelques minutes, ce serait la nuit complète. Je mis peu de temps à revenir à moi. Je me souvins de tout d'un seul coup, sans effort, comme si cela me guettait en embuscade. Même dans l'inconscience, d'ailleurs, je gardais sans arrêt en mémoire une espèce de point qu'il n'y avait pas moyen d'oublier et autour duquel tournoyaient lourdement mes pensées endormies. Mais une chose étrange, tout ce qui venait de m'arriver durant cette journée me parut là, à mon réveil, passé depuis des siècles, comme si, depuis des siècles, je m'en étais sorti. Ma tête brûlait. Tout paraissait tourbillonner devant moi. Ça me cognait, ça me bouleversait, me remplissait d'inquiétude. L'angoisse et la bile bouillonnaient à nouveau et cherchaient une issue. Soudain, auprès de moi, je vis 2 yeux ouverts qui me fixaient, curieux, obtus. Ce regard, il était froid, indifférent, lugubre, totalement étranger. Il pesait, ce regard. Une pensée lugubre surgit dans mon cerveau, me parcourut le corps comme une répulsion, un peu celle qu'on éprouve quand on pénètre dans un sous-sol humide et renfermé. C'était quand même bizarre que ce ne soit qu'à ce moment-là que ses yeux se soient mis à me regarder. Je me souvins aussi que, pendant 2 bonnes heures, je n'avais pas échangé un mot avec cet être. Cela ne m'avait pas semblé utile. Même tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi cela me plaisait. Maintenant, d'un seul coup, je me représentais cette idée de la débauche, absurde, répugnante comme une araignée, qui commence sans amour, obscène, scandaleuse, par ce qui devrait couronner le vrai amour. Nous avons continué longtemps à nous regarder l'un l'autre, mais elle ne baissait pas les yeux et ne changeait rien à son regard, de sorte que, je ne sais trop pourquoi, une terreur se mit à poindre en moi. « Comment tu t'appelles ? » demandai-je d'une voix brusque pour en finir plus vite. « Lisa, » répondit-elle chuchotant presque, mais sans aucune gentillesse. Elle détourna les yeux. « Je me tue un certain temps. Le temps qu'il fait aujourd'hui, la neige, c'est moche, » murmurai-je presque pour moi, au désespoir, en me croisant un bras sous la nuque et en fixant le plafond. Elle ne répondait rien. C'était affreux, tout ça. « Tu viens d'ici ?» lui demandai-je une minute plus tard, presque la rage au cœur, tournant juste la tête vers elle. « Non. D'où ça ?»« Riga, » murmura-t-elle malgré elle. « Allemande ? Russe. Ici depuis longtemps ? Où ? Dans cette maison. 2 semaines. » Elle parlait d'une façon toujours plus brusque. La chandelle avait fini de s'éteindre. Je ne pouvais plus distinguer son visage. « Tu as tes pères et mères ?»« Oui. »« Non. »« Si. »« Où sont-ils ?»« Là-bas. »« À Riga. »« Qui sont-ils ?»« Comme ça. »« Comment ? Comme ça. »« Qui ils sont ? De quel état ?»« Des marchands. » Tu as toujours vécu avec eux ? Oui. Quel âge tu as ? 20 ans. Pourquoi tu les as quittés ? Comme ça. Ce « comme ça » signifiait « fiche-moi la paix ». Ça me rend malade. Nous nous sommes tus. Dieu sait pourquoi je ne partais pas. Moi aussi, je me sentais de plus en plus malade et angoissé. Les images de la journée passée, comme bizarrement d'elles-mêmes, sans que je le veuille, revenaient d'une façon désordonnée dans ma mémoire. Soudain, je me souvins d'une scène que j'avais vue le matin dans la rue, quand, comme une souris soucieuse, je courais au travail. Aujourd'hui, ils sortaient un cercueil. Ils ont failli le renverser, dis-je brusquement à haute voix, sans avoir d'ailleurs la moindre intention de commencer une conversation. Comme ça, presque sans faire exprès. Un cercueil ? Oui, place au foin. Il le sortait d'une cave.
Une cave ?
Pas d'une cave, de sous le rez-de-chaussée. Enfin, tu sais, en bas, là, d'une mauvaise maison. Une telle saleté tout autour. Des écailles, des ordures. Ça puait. Dégoûtant. Silence. C'est moche d'enterrer aujourd'hui. Recommencer juste pour ne pas me taire.
Pourquoi c'est moche ?
La neige, la boue. Un bâillement.
C'est pas grave, dit-elle soudain après un certain silence.
Si, c'est sale. Nouveau bâillement. Les fossoyeurs, je parie, ils devaient pester. La neige détrempait tout. Dans la tombe aussi, il y avait de l'eau, sans doute.
Pourquoi de l'eau dans la tombe ?
Demanda-t-elle avec une sorte de curiosité, mais en parlant d'une façon encore plus brutale, plus hachée qu'avant. Moi, je sentais soudain quelque chose qui me titillait.
Comme ça, de l'eau, au fond, il y en a bien 6 pouces. Ici, au Volkovo, pas moyen de creuser une tombe sèche.
Pourquoi ?
Comment pourquoi ?
C'est humide, cet endroit. Partout des marécages. On les enfonce dans l'eau. Je l'ai vu moi-même, souvent.
Jamais de ma vie je n'avais vu ça. Je n'avais même jamais été au Volkovo. J'avais juste entendu dire que c'était comme ça.
Ça t'est vraiment égal de mourir ?
Mais pourquoi je mourrais ? Répondit-elle comme si elle se défendait.
Un jour, il faudra bien que tu meures. Tu mourras aussi sûr que la morte de ce matin. Elle était une jeune fille aussi.
De phtisie, elle est morte.
Une fille, elle serait morte à l'hôpital.
Elle doit déjà être au courant, me dis-je.
Et elle a bien dit, une fille, pas une jeune fille.
Elle devait de l'argent à sa patronne, répliquai-je, cette conversation m'aiguillonnant de plus en plus. Elle l'a servi jusqu'à la fin, malgré la phtisie.
Les cochers autour, ils discutaient avec des soldats, ils racontaient. Sans doute ses anciens amis. Ça les faisait rire. Ils avaient l'intention même de faire son banquet de deuil dans une taverne. Là aussi, j'avais brodé pas mal.
Silence.
Silence impénétrable. Elle n'avait même plus bougé.
Et à l'hôpital, tu crois que c'est mieux de mourir ?
Mais c'est pareil. Et puis, pourquoi je mourrais ? Ajouta-t-elle d'une voix agacée.
Pas maintenant, mais plus tard.
Même plus tard.
Évidemment. Là, tu es jeune maintenant. Tu es belle, fraîche. C'est ce qui fait ton prix. Mais un an de cette vie-là, tu ne seras plus pareil. Tu te faneras.
Un an ?
En tout cas, dans un an, tu vaudras déjà moins, poursuivis-je avec une joie mauvaise. Tu passeras d'ici à un peu plus bas, dans une autre maison. L'année suivante, dans une troisième maison, toujours plus bas, plus bas. Et puis, d'ici 7 ans, ce sera place au foin, une cave. Et dans le meilleur des cas.
Mais le malheur que ce serait si tu te découvrais une maladie, je ne sais pas, une faiblesse de poitrine, ou tu t'enrhumes, ou je ne sais quoi.
avec cette vie. Les maladies coûtent cher. Ça se colle à toi, ça ne se détache plus. Et là, tu es morte.
« Eh bien, je serai morte, » répondit-elle avec déjà une colère franche.
Elle fit un mouvement brusque.
« Mais c'est dommage. »«
Dommage pour quoi ?»«
Dommage pour la vie. »
Silence.
« Tu avais un fiancé, dit ? » ?»«
En quoi ça vous regarde ?»«
Je ne suis pas de la police. Ça m'est égal. »«
Pourquoi tu es fâché ?»«
Tu as pu avoir des ennuis, bien sûr. »«
Qu'est-ce que ça me fait ?»«
Comme ça, ça me fait mal. »«
Mal pour qui ?»«
Pour toi. » »«
Pas la peine. »
Chuchota-t-elle d'une voix à peine audible.
Elle bougea encore.
Cela me mit en rage immédiatement.
« Quoi, moi ? J'étais tellement doux avec elle et elle ?
Mais ça t'arrive de penser ? Tu penses que tu es sur la bonne voie, dis ?
Mais je ne pense rien. »
« C'est mal de ne rien penser.
Ouvre les yeux tant qu'il est temps. »
« Justement, il est encore temps. Tu es encore jeune, tu es belle. Tu peux aimer quelqu'un, te marier, être heureuse. »
« Elles sont pas toutes heureuses, celles qui se marient. » répliqua-t-elle en reprenant son ton brutal et saccadé.
« Bien sûr que non, mais quand même, c'est beaucoup mieux qu'ici. Il n'y a pas de commune mesure. Et puis, avec l'amour, on peut même vivre sans le bonheur. Même dans le malheur, on vit bien. C'est bien de vivre sur terre. Ce n'est pas grave, la vie qu'on a. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a, en dehors de cette puanteur ?
Bleu !»